Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette sentence de Jésus a fait couler beaucoup d'encre. Comment la comprendre? Faudrait-il conclure les chrétiens dans leur vie peuvent établir deux domaines bien étanches, leur vie spirituelle d'une part, leur vie dans le monde, leurs engagements d'autre part. Certains s'accommodent volontiers de cette distinction. Et pourquoi? Pour comprendre, il faut nous tourner vers Jésus lui-même. Sa propre vie dans le monde, et également des enseignements pour nous aujourd'hui. C'est alors que nous situons d'abord cette sentence dans son contexte. Ainsi, des pharisiens et des partenaires d'Hérode sont venus à Jésus pour lui tendre un piège. Ils veulent le provoquer un engagement temporel, politique, dans des mouvements comme celui des Zélotes, par exemple. Des Zélotes qui voulaient, par la force, mettre fin immédiatement à l'occupation de la Palestine par les Romains. Il leur semblait en effet que cette occupation était incompatible avec la vocation d'Israël à être le peuple de Dieu, son royaume. Alors pourquoi Jésus n'entre-t-il pas dans ses troupes? Et ainsi un signe de soumission au pouvoir des occupants était le paiement de l'impôt. Fallait-il payer? Choisir donc entre Dieu et César. Alors la réponse de Jésus peut paraître, à première vue, assez énigmatique. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ces paroles seraient-elles une habileté pour s'en tirer à bon compte d'un mauvais pas? Non, cette façon est indigne de Jésus. Et pour entrer dans sa pensée, il faut alors se tourner vers son comportement personnel dans sa vie et d'autre part, voir son enseignement pour nous. Le comportement de Jésus, celui-ci a pris toujours une très grande distance avec ceux qui voulaient faire de lui un roi temporel. Rappelez selon saint Marc, le jour de la multiplication des pains, on voulait faire de Jésus un roi. Saint Marc conclut l'affaire des pains. Nous notons encore la prudence que Jésus manifeste envers ceux qui l'acclamaient comme Messie, de crainte qu'on fasse de lui un Messie temporel. Et encore, devant un refus d'accueillir lui et ses apôtres, eh bien, il ne veut pas que les foudres du ciel tombent sur ses opposants. Mais surtout, et avant tout, la passion, où Jésus n'appelle pas à son service 12 légions d'anges. D'autre part, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il avait trouvé un exemple de foi dans un officier romain? Et enfin, c'est un païen qui reconnaît Jésus, fils de Dieu. Alors nous pouvons conclure, Jésus, dans son comportement, a refusé pour lui un engagement temporel immédiat au nom de la toute-puissance divine. Mais d'autre part, il y a un enseignement dans les paraboles et qui s'adresse à nous. Vous savez, ces paraboles que nous avons lues tous ces derniers dimanches, toutes ces paraboles du royaume, justement. Et que nous disent-elles? Elles font appel à la notion de temps et de maturation. Et parmi ces paraboles, nous pouvons retenir celle du grain de sélevé et celle du levain. Le grain de sélevé avec le temps et dans la puissance de vie qui est en lui devient un grand arbre. Et de même, le tout petit levain dans la pâte fait lever cette pâte avec le temps. Oui, la terre, la pâte, c'est la terre des hommes, c'est la pâte humaine. Et l'évangile, la grâce, la présence de notre Seigneur dans le cœur des chrétiens est justement une formidable force pour transfigurer justement les réalités humaines et pour accomplir donc par la grâce de Dieu une nouvelle création. Le grain, le levain si petit et si fort. C'est l'engagement des chrétiens dans la vie qui est de la sorte signifié. Alors, il n'y a pas à choisir entre la vie spirituelle et la vie dans le monde. Les chrétiens sont dans le monde, avec la puissance de la grâce, sont là engagés dans ce monde où Dieu les a placés. Et il appartient alors que les hommes doivent tendre, rendre à Dieu la seigneurie qui lui revient par leur vie, par leurs engagements temporels. Et tout cela pour la plus grande gloire de Dieu dans la maturité du temps. Amen.